et de temps en temps, et bienvenue si vous venez tous les dimanches. Donnez et Dieu vous donnera. Ça, c'est une parole de Jésus qui est étonnante, non ? Je ne sais pas si vous la connaissiez. C'est dans l'évangile de Luc. C'est la traduction parole de vie. Luc, il a mis les enseignements de Jésus par écrit. Hein, et donc, c'est sa version du sermon sur la montagne. On connaît plus celui de Matthieu qui est plus développé. Mais dans la version du sermon sur la montagne de Luc, il y a ce verset « Donnez et Dieu vous donnera ». Alors regardons quelques extraits de cet enseignement. C'est Luc, chapitre 6, verset 30, donc nous lisons dans la version parole de vie. « Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi te dire merci. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ben, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, eh ben, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors, vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Donnez et Dieu vous donnera. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, par ta parole, par l'écriture, viens changer nos cœurs, viens changer nos esprits, nos mentalités. Amen. Alors vous avez remarqué que, bon Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus des fois il était un peu mal poli. Et on nous raconte que justement pendant l'offrande, hein, il était devant les boîtes jaunes et il regardait ce que les gens mettaient dedans. Vous imaginez si Magali faisait ça? Et puis Jésus, il aime bien briser des tabous. Là, il parle d'argent. Mais en France, c'est un tabou de parler d'argent. Ça fait partie de nos petits tabous nationaux que nous aimons tant. Alors, puisque Jésus en parle, osons le faire ce matin. Puis les jeunes sont au ski avec le pasteur. On est entre nous. Allez. Alors, parlons d'argent un peu. En quoi vous êtes doué, vous, en ce qui concerne l'argent? Peut-être vous êtes fort pour dépenser. Alors, je suis sûr qu'il y a certainement parmi nous des gens qui sont forts pour dépenser. Si c'est le cas, tu peux lever la main. Ou si c'est le cas de ta voisine ou de ton voisin d'à côté, tu peux lui lever sa main. Et peut-être certains d'entre nous sont tellement doués que votre carte de crédit, elle aimerait bien prendre quelques jours de vacances. D'autres sont doués pour faire des bonnes affaires, pour dégoter les meilleures réductions, les prix cassés. Alors, c'est d'autant plus important avec l'inflation. Mais alors, peut-être certains d'entre vous voient qu'il y a des promos sur les yaourts à Carrefour, et après ils vont à Lidl pour acheter la viande, parce qu'il y a une promo, après ils vont à Intermarché pour les légumes, et peut-être, je ne sais pas où, à Leclerc pour le riz. Voilà. Et dis-moi, tu achètes où ton essence qui te fait faire tous ces kilomètres? Peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont forts pour épargner. Ah, voilà. Votre grand-mère vous l'avait bien dit de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. Et puis vous faites ça depuis un an, deux ans ou des nombreuses années. Et certains d'entre nous ont tellement d'argent sous leur matelas qu'ils pourraient acheter un petit pays. Alors voilà, vous êtes peut-être vraiment doués pour épargner. Alors ce qui est intéressant quand on y pense, c'est qu'il n'y a pas un seul verset biblique que nous devrions être doués pour faire du shopping. Il n'y a pas un seul verset biblique qui dit que nous devrions être doués pour la chasse aux bonnes affaires. Et il n'y a pas un seul verset biblique qui dit que nous devrions être doués pour accumuler des trésors pour nous-mêmes. Mais il y a plutôt beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui disent d'être doués et talentueux dans le fait de donner. Nous venons d'en lire un des passages, c'est les paroles du Christ. C'est pas n'importe qui, le Christ lui-même. Alors fin janvier, je vous avais proposé un message sur le fait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et bien, je voudrais continuer ce matin. Ça tombe bien, je crois que le Seigneur nous a exhortés à aller plus loin avec lui. Et nous avions lu ce passage de la seconde lettre de Paul à l'église de Corinthe, en Grèce. Il écrivait aux chrétiens de cette bonne ville de Corinthe, il les encourageait à être généreux comme Jésus. À cette époque-là, les croyants de Jérusalem et de la Judée, donc à quelques milliers de kilomètres de Corinthe, étaient dans la famine et dans l'épreuve, et Paul avait mis en place une aide internationale d'urgence entre croyants de tous les pays. Et précédemment, les Corinthiens avaient dit « Oui, nous voulons donner, et nous allons donner, et nous prévoyons de donner. » Et ils avaient prévu de donner, ils avaient commencé, mais ils s'étaient arrêtés. Ils avaient de bonnes intentions, mais ils n'ont pas donné suite. Alors Paul leur écrit pour les réactiver, pour réveiller leur cœur et leur volonté. Alors lisons ces extraits dans la version Nouvelle Bible Seconde. Donc c'est 2 Corinthiens 8, si vous voulez regarder dans vos Bibles, sinon ça s'affiche. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Je passe au verset 4. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. Et au verset 6, c'est pourquoi nous avons encouragé Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. De même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. Et donc c'est au verset 6, hein, Paul il l'a réellement écrit. Nous avons encouragé Tite, ou alors Titus, comme vous voulez, à achever, à terminer chez vous cette œuvre de grâce, c'est-à-dire le fait de donner pour cette aide internationale, pour donner pour les croyants de Judée. Paul leur dit, Titus va revenir chez vous pour vous encourager à terminer ce que vous aviez promis, pour achever le ministère de solidarité. Vous aviez de bonnes intentions, vous alliez le faire, mais vous n'avez pas terminé. Moi j'aime dans cette traduction comment Paul appelle cette chose. Il appelle ça le ministère de solidarité. Et je voudrais que nous tous ensemble, nous réalisions une fois de plus ce matin que donner, c'est très très spirituel. Donner, c'est très spirituel. Comme prier, oui, prier, c'est spirituel. Étudier ou lire la Bible, étudier la Bible, par exemple, comme on fait le jeudi soir à 19h avec Explorer la Bible, c'est très spirituel. Venez, si vous voulez, voir comment ça se passe. Jeûner, c'est très spirituel aussi. Donner de son temps pour servir, par exemple auprès des enfants, c'est très spirituel. De même que venir le lundi matin pour faire le ménage, c'est très spirituel. J'en profite parce que vous avez vu que l'équipe a besoin de renfort. Tout cela, c'est très spirituel. Mais n'oublions pas que Paul nous rappelle que donner aussi, c'est très spirituel. Et c'est un ministère. Alors vous savez, le mot de ministère, en grec, ça a donné diaconie. Puis si vous traduisez le même mot en latin, ça donne ministère. Voilà, terminé, dit Paul, le ministère de la solidarité. Parce que vous avez tout en abondance. En d'autres termes, en d'autres mots, il leur dit, vous excellez déjà dans plein de choses spirituelles. Rajoutez celle-là. Vous avez une grande foi pour croire en Dieu, pour les miracles. Vous avez des communicateurs doués. Vous êtes doués pour rechercher la connaissance biblique. Vous êtes doués pour l'enthousiasme spirituel, pour montrer de l'amour. Je voudrais que vous soyez également doués pour donner. Voilà ce que Paul leur dit. Je veux que vous soyez des donateurs de niveau international. Alors ce matin, revenons à nous. Je suppose que peut-être, probablement, certains d'entre vous, vous êtes un petit peu comme moi. Vous voudriez être doué pour donner. Mais bon, on a des bonnes intentions, mais on n'y arrive pas toujours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir vraiment à cœur de donner quelque chose, et puis finalement, vous ne l'avez pas fait? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, on a envie de donner parce qu'il y a une occasion qui nous touche. Ou alors des fois, on sent que Dieu nous demande de le faire. Alors moi, je m'étais préparé, et puis c'est compliqué, il faut le dire. C'est compliqué dans ces situations. Parce que, bon, par exemple, moi, quand Dieu me dit quelque chose, au bout d'un certain temps, je dis, mais t'es sûr, Loïc? T'es pas en train de te tromper? Ou alors, ça m'est arrivé aussi de vouloir résolument donner, et puis au moment de le faire, ben, y a quelque chose qui m'a retenu. j'étais gêné, j'étais mal à l'aise, la personne n'était pas seule, il y avait du monde autour, j'avais peur. Ça vous est jamais arrivé, ce genre de situation ? Alors une fois, j'ai mis ça dans l'enveloppe et hop, je l'ai envoyé par la poste, incognito. Et là, ça a passé, ma pudeur a été épargnée. Voyez-vous, je suis certain que la plupart d'entre nous, nous voulons être généreux parce que nous avons beaucoup reçu de la part de Dieu et que nous avons envie de le partager. Et Paul écrivait aux Corinthiens qu'il y avait à peu près le même problème que beaucoup d'entre nous. Nous voudrions être généreux, mais on n'est pas vraiment doué d'être généreux. Alors comment fait-on pour devenir doué dans un domaine ? Comment fait-on ? Ben, par exemple, vous savez qu'on ne devient pas doué par accident. Imaginez, vous connaissez une personne peut-être qui un jour se met à un piano, n'a jamais joué de piano et qui devient concertiste de piano. Non, ça ne marche pas. Ou alors vous êtes dans votre cuisine, vous prenez votre couteau de cuisine et vous dites « Tiens, je vais faire de la chirurgie cardiaque ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors vous tombez sur un terrain de foot pour la première fois et vous devenez le Messi, le Zidane ou le je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas. La seule façon pour réussir et de devenir doué dans un domaine, ben c'est de démarrer au niveau le plus bas, niveau zéro. Hein, être généreux pour les nuls. Et puis vous passez au niveau 1, vous entraînez le niveau 2, vous progressez petit à petit. Voilà, et on grandit et on devient doué. Et en fait, pour qu'on puisse progresser dans un domaine, il faut que ça soit une décision stratégique. Ça ne va pas venir tout seul, comme ça, en claquant des doigts. Ça demande un engagement de temps, d'énergie, d'intelligence. C'est quelque chose qui va façonner notre vie. Je veux dire, devenir bon dans ce domaine. Et donc, personne n'est devenu généreux par accident. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas devenir généreux par accident, c'est que ben, nous sommes naturellement égoïstes. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vais vous le prouver. Prenez un enfant de 2 ans. Est-ce que vous avez besoin d'inscrire un enfant de 2 ans à un cours pour devenir égoïste ? Non, il va l'être naturellement. Vous n'avez pas besoin de lui dire « Hé bébé, je vais t'apprendre à être égoïste aujourd'hui. Alors, je vais te donner un jouet et au moment où je te le reprends, tu vas essayer de crier le plus fort possible. » Non, il n'y a pas besoin de faire ça. L'enfant va le faire naturellement parce que, comme nous, l'enfant est naturellement égoïste. C'est pareil quand vous regardez une photo où vous êtes dessus, une photo de groupe. Qui c'est que vous regardez en premier sur la photo ? Est-ce que je suis bien sur cette photo ? C'est parce que nous sommes naturellement égoïstes. Même depuis, on a inventé les selfies. Alors, personne n'est généreux par nature. Personne ne devient doué dans la générosité par accident. Paf, ça m'est tombé dessus. Et comment nous voulons faire ? Nous devons le planifier. Nous devons le prévoir. Nous devons décider de le devenir. Si nous voulons vraiment ressembler à Dieu, à ce Dieu qui donne même à ceux qui ne lui disent pas merci. C'est ça, lui ressembler. Être des fils et des filles du Très-Haut. Lui ressembler, comme un fils ou une fille peut ressembler à son père. C'est ça le sens de passage. Ressembler à Dieu. Soyons bons comme il est bon. Donnons comme il donne. Notre Père est plein de bonté. Soyons comme lui, plein de bonté. Alors nous ne ressemblerons jamais autant à Dieu que lorsque nous donnons généreusement. Et si tu veux être génial, si tu veux être comme Dieu, sois doué pour être généreux. Prévois d'être généreux. Et ensuite, tiens ferme dans ton intention de générosité. Alors je crois que la plupart d'entre nous, nous envisageons pas d'être généreux. Alors nous prévoyons beaucoup de choses. On planifie les vacances, on prévoit de ranger le garage. On peut préparer une fête à l'avance, nous planifions peut-être un rendez-vous. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas ça pour leur don, pour leur générosité. Des fois, nous donnons spontanément, comme ça, sous l'impulsion du moment. Et il n'y a rien de mal à ça. Vous conduisez, vous arrêtez au feu rouge, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, et puis voilà, vous dites, tiens, je vais bénir cette personne, je vais lui donner un petit quelque chose. Mais ça, c'est très bien. Mais en fait, si on ne fait que donner spontanément, bon, on ne deviendra jamais généreux. Parce qu'il y a une énorme différence entre donner et être généreux. Ça m'arrive de donner, mais je ne suis pas sûr d'être vraiment généreux. Moi, j'ai des ancêtres écossais. Vous voyez, donner, c'est une action. Nous faisons un don, c'est un acte. Mais être généreux, c'est très différent. Être généreux, c'est notre mentalité, c'est notre personne, c'est notre cœur. Alors, je vous propose d'aller un peu plus loin et de regarder dans ce passage de la parole de Dieu, de Corinthiens, trois qualités des personnes généreuses. Et ma prière, c'est que Dieu m'aide et qu'il nous aide à grandir vers ces qualités. Alors, quelles sont ces trois qualités? C'est la slide d'après. Comment donnent les gens généreux? Eh bien, on va voir que les gens généreux donnent, premièrement, volontairement. En deuxièmement, ils donnent de manière proportionnelle, proportionnellement. Et en troisième point, ils donnent de manière sacrificielle, donc sacrificiellement. Alors, je ne sais pas si le mot il existe, hein, mais on va dire qu'on l'invente pour ce matin. Alors, regardons le premier point. Les gens généreux donnent volontiers, volontairement. Et donc, dans 2 Corinthiens 8, verset 10, Paul, il écrit ça. « L'année dernière, vous étiez les premiers non seulement à vouloir donner, mais à avoir le désir de le faire. » Et Paul continue, « Maintenant, terminez le travail. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider. » En d'autres mots, Paul leur dit « Comblez l'écart entre vos intentions et vos actions. Vous voudriez être généreux ? Eh bien, faites-le. Faites l'action qui vous permettra de l'être. Et faites-le selon vos moyens, selon ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas. Les gens généreux donnent volontiers, volontairement. Et voyez, Dieu ne se préoccupe pas du montant, en tout cas pas seulement, mais il est surtout préoccupé par le cœur, par la manière dont vous donnez. Alors moi, je ne sais pas vous, mais parfois ça m'est arrivé de donner avec des mauvaises motivations. Il y a plein de mauvaises motivations qui pourraient nous pousser à donner. Ce n'est pas ça qui nous fera de nous des gens généreux, même si on donne. Alors, quelles peuvent être ces mauvaises intentions, ces mauvaises motivations? Par devoir, pour se faire bien voir, pour soulager une culpabilité, pour avoir une réduction d'impôts, pour impressionner les autres, pour se faire aimer, pour montrer notre richesse, etc. etc. Bref, la liste pourrait être longue. Et la générosité, ce n'est pas vraiment le montant, mais c'est la motivation du cœur. Et chaque fois que nous donnons, que nous essayons de donner de bon cœur, avec comme motivation d'honorer Dieu et de bénir les autres. Donner de bon cœur, ce n'est pas un « je dois », mais c'est un « je veux ». Après tout ce que Dieu a fait pour moi, je vais être une bénédiction pour les autres. Les gens généreux donnent volontairement. La deuxième chose, c'est que les gens généreux donnent proportionnellement. Ils donnent proportionnellement à ce qu'ils ont. Alors pour certaines personnes, donner 10 euros, c'est incroyablement généreux, parce que c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Et une autre personne pourra donner 1000 euros. Waouh, c'est généreux. Et Dieu, qui regarde, il dit « mais c'est pas généreux du tout. Cette personne, elle est si riche que ça ne va pas changer grand-chose qu'il donne 1000 euros ou pas. » Les gens généreux donnent proportionnellement à ce qu'ils ont. Et donc, c'est une des raisons pourquoi Paul dit ça dans 2 Corinthiens 8, 11, « Donnez selon vos moyens, c'est-à-dire proportionnellement à ce que vous avez. Si vous avez peu, eh ben donnez une petite portion, peu. Si vous avez moyen, eh ben donnez moyen. Si vous avez beaucoup, eh ben donnez beaucoup. » Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. C'est l'Écriture qui nous le dit. Donner en proportion de ce que Dieu vous a donné. Et ce que Paul enseigne là dans le Nouveau Testament, c'est un principe très ancien qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit pour nous d'apprendre à prioriser une portion, de réserver une portion afin de la donner à Dieu en premier et ensuite aux autres. Et on trouve ça partout dans l'Ancien Testament. La dernière fois, on avait lu pas mal de versets sur ce sujet. Je vous propose d'en lire un autre là dans Lévitique 27, 30. On mettra à part pour le Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Un dixième. Alors dans les traductions moins récentes, c'était le mot dîme. Mais là, c'est plus parlant, un dixième. En hébreu, c'est le mot maaser ou maessar. Je ne sais pas trop comment il faut prononcer, Chantal. Bon, tu me diras tout à l'heure. Et ça veut dire le dixième. 10%. Alors, vous connaissez la fameuse série 10% avec Camille Cotin qui est agent pour des acteurs célèbres, etc. Non, bah, si vous ne connaissez pas, regardez-la, c'est très drôle. Eh bien, 10%, c'est aussi la part que les Hébreux, que les Juifs devaient donner à Dieu pour lui rendre honneur. C'est la part qui est réservée à Dieu. Alors, si vous me permettez un jeu de mots douteux, tant pis si ça vous choque, mais moi, j'aime bien ce genre de jeu de mots. Mais donnez vos 10% à Dieu. Prenez Dieu comme agent. Vous verrez, il vous proposera des bien meilleurs scénarios pour votre vie. Alors, revenons à notre verset. Le verset 30, il indique cette portion. Les 10%, et puis il continue, verset 31, 32, 33, il parle aussi du bétail, il fallait réserver une bête sur 10. Hein, on est toujours dans les 10%. C'est saint, c'est consacré pour le Seigneur. Et vous savez quoi? Le livre du Lévitique, il se termine là-dessus. C'est les dernières phrases du livre de Lévitique, C'est le verset 34 qui dit « Voici les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse pour le peuple. » Point. Et le livre est fini. On termine là-dessus. Alors, à plein d'autres endroits, l'Écriture nous invite à donner le dixième de nos revenus à Dieu. 10% de ce qu'il nous confie, nous lui rendons. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Et à cette époque-là, les Juifs, ils avaient le barrage du tabernacle ou du temple. Il y avait les prêtres, les sacrifices, etc. Nous, nous avons un plein accès auprès du Père. Vous voyez la différence? Alors, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que la même chose que moi j'ai pensé la première fois où j'ai entendu ça. Pas question, je ne vais pas donner 10% à Dieu, non? Moi, je suis devenu chrétien à 18 ans. Je venais de passer le bac, je démarrais mes études. Bon, j'avais la chance que mes parents me financent mes études, ils donnaient un temps par mois pour payer le loyer et puis la nourriture. Bon, j'avais pas énormément non plus, mais à cette époque-là, je mangeais à midi et le soir au restaurant universitaire. C'était, je crois, 2,50 francs le repas. C'était il y a longtemps. Hein. Vous savez pas ce que c'est les francs, peut-être, certains d'entre nous. Excusez-moi. C'était la monnaie avant l'euro. Hein. Alors, pour avoir un petit peu plus, je donnais des cours de maths, des cours de musique. Et puis voilà, ça me suffisait. À cette époque-là, un cours, c'était 10 francs de l'heure, je crois. Voilà. Et donc, je suis devenu chrétien. Et puis, j'ai entendu parler de cette histoire de 10%. Bon, quand on est étudiant, qu'on n'a pas grand-chose, 10%, ça fait vite beaucoup. Et j'ai fait l'expérience que les mois où je donnais mes 10%, je manquais de rien. Et les mois où je ne les donnais pas, ben, à la fin du mois, c'était plus dur. Voilà, il a fallu que je réorganise ma vie autour de ça, autour de ma manière de mettre Dieu au centre, y compris de mon argent et de son commandement. Alors ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts dans ma vie, ça m'a pris du temps, des expériences, apprendre à vraiment faire confiance à Dieu dans tous les domaines, y compris le domaine financier. J'ai dû apporter des modifications à mon mode de vie, mais surtout à ma mentalité, apprendre à donner la priorité à Dieu par rapport à tout ce que je faisais. Alors c'est complètement fou de donner minimum 10% à Dieu. Mais c'est ce qu'il demande. Et puis Dieu le dit, testez-moi, mettez-moi à l'épreuve là-dessus. Voilà, c'est très spirituel de prendre Dieu au sérieux et de l'honorer, de lui faire confiance. Alors certains d'entre vous qui n'ont pas encore fait ce choix vous invitent à le faire. Louez Dieu avec revenu en lui donnant 10%. Si tu fais rien, ben, il ne se passera rien dans ta vie. Alors si tu trouves que c'est trop, ben, commence avec 3% ou avec 5%. Et puis tu te dis, je vais voir si Dieu honore mon geste d'obéissance. Tu verras que oui. Progressivement, tu verras. Et puis si tu arrives à 10%, ben, continue, ne t'arrête pas là. Pour les Hébreux, c'était la limite basse, pas la limite haute. Tu peux donner 11, 12, 15, 20, 25. Ça dépend de tes moyens. C'est Paul qui le dit. Alors par exemple, nous donnons dans nos boîtes, nos fameuses boîtes là, qui étaient jaunes avant puis qui ont été repeintes. Merci à l'équipe. d'ateliers créatifs. Et puis nous pouvons donner ailleurs, par exemple. Vous savez, on a commencé l'action auprès des étudiants. Et il y en a plusieurs ce matin qui sont au milieu de nous, et je les salue. Le ministère de solidarité, 2 mercredis par mois. Notre assemblée, on s'est tous mobilisés pour donner au démarrage, là, au début de l'année scolaire. C'est super, et ça continue. Voilà, et ça continue. C'est-à-dire que 2 fois par mois, ça continue. 2 fois par mois, l'équipe, elle distribue 50 de colis repas, de colis alimentaires. Ça continue, voilà. On a toujours besoin que nous apportions des produits d'hygiène, qu'on mette des choses à manger dans les boîtes ou de l'argent dans la petite boîte qui est prévue à cet effet. Alors, Fabienne et l'équipe ont fait passer l'autre jour au Conseil une prévision de budget. Alors, on va faire les comptes, c'est très rapide. Il y a 2 fois par mois, il y a 50 étudiants et un colis alimentaire, c'est 8 euros. 2 fois 50, ça fait 100, fois 8, ça fait 800. Donc grosso modo, ça fait 800 euros par an, par mois. Alors peut-être que nous pourrions profiter de cette occasion pour devenir intentionnels et de planifier. Si 80 personnes donnent 10 euros tous les mois, ben ça fait 800 euros. Voilà, le compte est bon. Hein ? Mais peut-être 10 euros, c'est trop pour toi. Alors peut-être tu peux donner 5 ou 1 euro. C'est déjà bien, selon tes moyens. Mais peut-être certains disent, ben non, moi je peux donner plus, je peux donner 20 ou 40 euros. Ou peut-être même, je ne sais pas, 100 euros ou 200 euros. C'est selon nos moyens. C'est ça, planifier notre générosité. Voyez-vous, les gens généreux, ils ont un plan et ils tiennent ferme dans leur générosité. Les gens généreux, ils donnent volontairement et ils donnent proportionnellement. Alors nous voulons ressembler à Dieu, nous voulons être une bénédiction pour les autres. Alors passons à la troisième qualité. Les gens généreux donnent de manière sacrificielle. Ils donnent sacrificiellement. Ils ne donnent pas simplement quand c'est facile, quand c'est confortable. Alors Paul, lui, il écrit plus doucement. Hein, si vous lisez. Hein. Il ne s'agit pas de tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance qui vous permet de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Alors, ça, c'est la traduction Nouvelle Français Courant. L'ancienne traduction de M. Louis II, lui, il avait traduit ça par « Votre superflu pourvoira à leurs besoins ». Moi, j'aime bien cette formule. Mais parfois, donner, ça peut nous coûter un petit peu plus que notre superflu, si on veut être généreux et ressembler à Dieu. Ça peut nous coûter comme un sacrifice. Alors Jésus, donc, il nous a mis devant une situation dans l'évangile de Marc qui est assez remuante avec cette pauvre veuve. Justement, il a regardé ce que les gens mettaient dans la boîte à offrandes. Hein, on voit ça dans la fin de l'évangile de Marc. Déjà, ça donne à réfléchir que Jésus regarde. Donc, tout à l'heure, pour rigoler, je disais qu'il était un petit peu mal poli. Je ne voudrais pas vous choquer. Mais ça fait réfléchir de voir que Jésus regarde comment les gens donnent leur offrande et quelle quantité. Et donc l'histoire dit qu'il y avait beaucoup de gens riches qui étaient là, ils ont donné beaucoup parce que c'était facile pour eux. Ils avaient donné de grandes quantités. Et puis il y a une pauvre veuve qui arrive. Vous savez, à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas travailler. Donc quand le mari mourait, ben la personne, elle était souvent... elle devenait pauvre. Elle n'avait pas de revenus. Et donc cette pauvre veuve, elle est venue, elle a déposé 2 petites pièces. Et Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve, elle a donné bien plus que les autres. Car eux, ils ont donné beaucoup, mais ce n'était pas grand-chose pour eux. Alors que elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est remuant, n'est-ce pas ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner quelque chose dont tu as besoin pour vivre ? Et si oui, à quand ça remonte la dernière fois ? Alors moi, je voudrais vous donner un exemple. Je n'aime pas trop parler de ça, mais je me lance. C'était toujours quand j'étais étudiant, donc il y a 35 ans au moins, j'avais un ami qui voulait faire la fac de Théo. Moi, je faisais des études scientifiques. Et lui, il voulait faire la fac de théo parce qu'il voulait devenir pasteur. Et lui, sa famille n'avait pas les moyens de payer ses études. Donc, il travaillait à côté. Et puis moi, j'avais pris la décision de lui donner 50 francs tous les mois. Alors, c'était beaucoup, 50 francs à l'époque. 50 francs. Alors, pour moi, ça faisait l'argent de 4 ou 5 cours de maths. Mais ce n'était pas un gros sacrifice. Parce que comme je donnais les cours de maths toutes les semaines, il y avait une semaine, c'était pour mon ami, et puis les trois autres, c'était pour moi. Mais je me réjouissais de l'aider. C'était un vrai bonheur de lui donner. Et j'étais aussi fier de pouvoir contribuer au royaume de Dieu par ce moyen. Je soutenais un ami qui allait servir Dieu en devenant pasteur. Et puis il est devenu pasteur, et il l'est toujours, 35 ans après. Et comme nous l'avons lu au tout début, « Donnez, et Dieu vous donnera ». Et moi, j'ai expérimenté constamment cette chose-là. J'ai tellement reçu de Dieu, dans tous les domaines, pas que financièrement. Et je suis certain que beaucoup ici ont fait des expériences similaires. Mais peut-être d'autres n'en l'ont jamais faite. Et moi, je t'encourage à faire cette découverte. Donne, et tu verras que Dieu te donnera. Alors, j'arrive à la fin. Pour résumer, donc, la Bible nous dit que ce n'est pas la peine d'essayer d'être doué pour dépenser ou faire des bonnes affaires ou accumuler pour soi des trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille détruisent. Hein. Mais soyez doués pour stocker des trésors dans le ciel. Soyez grands, excellez dans le ministère du don, car donner, c'est spirituel, c'est un ministère. Ne soyons pas comme les Corinthiens qui avaient l'intention, mais qui n'ont pas fini de mettre en pratique. Donnons volontiers, avec joie, de manière volontaire. Donnons proportionnellement un pourcentage. Allez, 10, c'est un point de départ. 10 pour rendre à Dieu, pour l'honorer. Et puis un petit peu plus. Mais je sais que ça paraît fou. Mais si tu regardes, Dieu présente, c'est lui qui se présente comme ça. Et c'est lui qui donne et qui a commencé. Parfois, nous donnons de notre superflu. Et ça suffit. Et parfois, nous donnons de manière sacrificielle. Parce que lorsque nous donnons, nous ne ressemblons jamais davantage à Dieu, car Dieu donne. Et il est bon, même pour ceux qui ne lui disent pas merci, et il est bon pour les méchants. C'est ce que Luc écrit. Dieu a donné son Fils pour nous sauver. Il l'a donné de manière sacrificielle. Alors que nous étions complètement indifférents, ou même que nous étions peut-être des méchants, dans la colère, dans la rébellion contre Dieu. Et pourtant, le Christ est mort pour des gens mauvais. Et voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Le Christ est mort pour nous et nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ça, c'est dans la lettre aux Romains. Dieu a aimé même ses ennemis, nous, en donnant Jésus pour nous sauver. Alors, je vous invite à prier. Notre Père, toi qui es plein de bonté, de tendresse, toi qui es généreux, interviens dans nos cœurs. Donne-nous la foi. Donne-nous un état d'esprit de générosité. Change notre mentalité d'égoïste et donne-nous ta mentalité de généreux. Aide-nous à devenir bon comme tu es bon, à te ressembler, généreux comme tu es généreux. Donne-nous des yeux pour voir, des occasions pour donner, pour être une bénédiction. Donne-nous des occasions de donner, soit personnellement ou soit en tant qu'Église, pour bénir les personnes dans le besoin, pour donner occasionnellement ou spontanément, mais aussi de manière stratégique. Aide-nous à planifier d'être généreux et à être des personnes qui demeurent fermes dans leur générosité, des personnes qui donnent volontairement, proportionnellement, sacrificiellement. Ce matin, Dieu dit qu'il donne et qu'il est bon envers les bons et envers les méchants. Souvent, le mot « méchant » dans la Bible, ça représente ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et ce matin, si c'est ton cas, Tu peux changer ta situation et dire à Dieu, « Oui, j'accepte ton Fils unique, Jésus. J'accepte de recevoir le pardon de mes péchés à cause de son sacrifice. » Comment Dieu a-t-il donné ? Dieu avait prévu d'envoyer son Fils. C'est son plan. C'est son objectif d'envoyer Jésus. Et Dieu a donné son Fils volontairement. Dieu a donné son premier, son unique Fils. Il ne l'a pas donné à 10% juste, mais à 100%. Et Dieu a offert le don le plus sacrificiel qui soit, Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur une croix et qui est ressuscité ensuite. Jésus a donné sa vie à notre place. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait, à quel point ta vie est sombre, peu importe si tu te sens loin de Dieu, mais invoque-le dans ta vie. Et au nom de Jésus, tes péchés seront pardonnés. Ta vie va changer. Tu vas devenir une nouvelle personne. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'aime. Alors dis-lui, oui Jésus, je reçois ton don, le don de la vie, le don du salut. Père Céleste, merci pour le don d'avoir envoyé ton Fils. Merci de nous rendre semblables à toi. Fais-nous progresser dans notre générosité pour que nous devenions comme toi tu es. Amen.